Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce dimanche 2 août. Avec vous, Christophe Mallet et Jean-Noël Ducasse au sommaire. Le journal Les Sports focus sur le personnage du jour et Europa Voice, épisode numéro 66, le Covid-19 et la réponse sanitaire de l'Union européenne. Il est 13h et on passe au journal. Les grands titres de ce dimanche 2 août, Melbourne devrait adopter dans quelques jours les restrictions de coronavirus les plus strictes de la pandémie à ce jour en Australie. Selon les rapports dans les médias, il y aurait plus de 650 nouveaux cas de coronavirus recensés ce dimanche dans le Victoria, 12 nouveaux cas recensés en Nouvelle-Galles du Sud ce dimanche. Un mot de foot et Arsenal remporte la FA Cup édition 2020. Melbourne devrait adopter dans quelques jours les restrictions de coronavirus les plus strictes de la pandémie à ce jour en Australie. Le journal Sunday Age rapporte que les restrictions de la phase 4 dureront 6 semaines. Elles comprendraient un arrêt presque complet du réseau de transport en commun de la ville, la limitation de la distance que les gens peuvent parcourir depuis leur domicile, plus de restrictions concernant les écoles et davantage d'entreprises vendant des produits non essentiels fermant les portes temporairement. Le reste du Victoria passerait à la phase 3 des restrictions actuellement en place à Melbourne et dans la Mitchell Shire. Les restrictions seraient envisagées pour entrer en vigueur dès ce mercredi 5 août. Le ministre fédéral de l'Éducation, Dan Tehan, a déclaré sur Sky News que de telles restrictions renforcées auraient le soutien du gouvernement fédéral.
Well, absolutely. We've got our officials working with the Victorian State Government. Our Chief Medical Officer is providing help and assistance to Victoria. We're working collaboratively and closely with them. We want to make sure that this second Victorian wave, that we can get on top of it and deal with it as quickly as we possibly can, because it's absolutely in the national interest that we do so.
Le Queensland a enregistré un nouveau cas de coronavirus ce dimanche. Ce serait un homme d'une vingtaine d'années, un voyageur de retour en quarantaine à l'hôtel. Il est rentré dans le Queensland via Sydney sur un vol Jetstar Sydney-Maroochydore le 31 juillet dernier. Les autorités contactent les passagers de ce vol. Il y a 5 cas de coronavirus liés aux 3 femmes accusées d'être entrées illégalement dans l'État du Queensland depuis Melbourne le mois dernier. Le directeur de la santé du Queensland, Dr. Janet Young, a déclaré que les personnes dans les zones concernées par cet incident devraient toujours être testées si elles ne se sentent pas très bien.
It's really important that anyone who lives in the southern part of Brisbane, Logan, Westmorton, anyone in those areas who've been unwell, to come forward and get tested. The response to date has been fantastic.
La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 12 nouvelles infections de coronavirus ce dimanche. Il y a un cas d'une personne en quarantaine dans un hôtel. 8 personnes sont en soins intensifs avec le virus. Près de 22 500 tests de coronavirus ont été effectués dans l'État au cours des dernières 24 heures. On écoute la première ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian.
We want us to be able to be on a path where we can continue to have a good balance of taking care of the virus, keeping people safe, but also obviously going about our daily lives and supporting people into jobs, especially those who have lost their jobs. And keeping this right balance is integral for our well-being in the next little while, and that's why the next few weeks are absolutely critical.
Le gouvernement du Queensland lancera aujourd'hui un plan de sauvetage d'une valeur de 150 millions de dollars pour les universités de l'État. Le financement offrira des facilités de prêt pour le secteur universitaire qui a été durement touché par la crise de coronavirus en raison de la fermeture des frontières nationales et les restrictions à la circulation des étudiants internationaux. La première ministre du Queensland, Anastasia Palaszczuk, affirme que le financement aidera à garder ouvert les 8 universités de l'État, ce qui protégera les milliers de personnes qui comptent sur ces universités pour un travail. En Allemagne, la plupart de la population approuve la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. Mais hier, il y a eu cette manifestation des anti-masques, des anti-coronavirus, comme l'explique Emmanuel Chaz pour RFI depuis Berlin.
Ils étaient 17 000 aujourd'hui à Berlin, venus de toute l'Allemagne pour protester contre les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Malgré une hausse inquiétante du nombre d'infections ces dernières semaines, c'est une convergence des sceptiques qui a rassemblé extrême droite, théoriciens du complot, opposants à la vaccination. Pour eux, leurs libertés sont entravées et ils se représentent comme un mouvement de résistance. Reste que le slogan de la manifestation d'aujourd'hui, Jour de la liberté, c'est aussi le titre d'un film de propagande nazie de Leni Riefenstahl et que plusieurs pancartes assimilaient le port du masque et les vaccins au port de l'étoile jaune pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme les règles d'hygiène n'ont pas été respectées, la manifestation a été dissoute par la police et des poursuites pénales ont été engagées contre les organisateurs. Cette manifestation intervient alors que les autorités ont fait part de leur inquiétude face à la recrudescence des cas de coronavirus et ont appelé la population à redoubler de vigilance pour éviter une seconde vague d'infection.
En France, des mesures de restriction contre le coronavirus pour des voyageurs arrivant de 16 pays. Ils sont testés à l'aéroport dès leur arrivée. Reportage Marie Casadebé pour RFI.
Les aéroports parisiens de Roissy et d'Orly, les premiers concernés, ont les moyens de tester 3000 passagers par jour, mais ils ne s'attendent pas à un tel afflux. Il faut dire que les frontières avec ces 16 pays sont fermées, les vols sont donc rares. Seuls les citoyens français résidant dans ces pays ou les étrangers ayant une résidence stable en France devront finalement se plier à ce dispositif. Aussi parmi eux, certains auront déjà en leur possession une attestation prouvant qu'ils ne sont pas porteurs du virus. 4 des 16 pays demandent obligatoirement ce document aux passagers qui quittent leur territoire. C'est le cas des États-Unis, du Panama, de Bahreïn et des Émirats Arabes Unis. À l'arrivée des vols, les passagers seront donc séparés en deux files. D'un côté, ceux qui devront présenter cette attestation. De l'autre, ceux qui devront passer le test à l'aéroport. Les tests PCR seront réalisés sous des tentes, à l'abri des regards. Les patients devront laisser leurs coordonnées. Les résultats leur seront envoyés sous 36 heures. En attendant, ils pourront quitter l'aéroport, mais devront rester à l'isolement. Et si les résultats sont positifs, ils seront placés en quatorzaine. En cas de refus, la préfecture pourra prendre un arrêté individuel de privation de liberté. Le récalcitrant pourra alors être assigné à un domicile précis où il sera contrôlé par les autorités sanitaires.
Environ 15 000 manifestants sont descendus devant la résidence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Jérusalem. Ils arboraient des banderoles appelant Netanyahou, le Premier ministre depuis 2009, à démissionner. Les manifestations contre le Premier ministre se déroulent depuis un certain temps maintenant et englobent divers problèmes, y compris l'économie, en particulier en relation avec sa gestion de la pandémie de coronavirus et une affaire de corruption contre lui dans laquelle il nie avoir fait quoi que ce soit de mal. Ce manifestant déclare que Benjamin Netanyahou est trop concentré sur son procès de corruption pour aider le peuple d'Israël.
It's one of the biggest demonstrations in Jerusalem since people gather here to protest to say we had enough. Bibi, Benjamin Netanyahu, the prime minister, is corrupt. He's not capable of leading, he's not capable of managing the country anymore because he's so much involved in what is going on with his trial. He's only centered in this. He's not caring about the people, he's not caring about the citizen. He can't do anything.
Aux États-Unis, l'administration de Donald Trump et des principaux membres du Congrès du Parti démocrate sont encore loin d'un accord pour injecter plus d'argent dans l'économie américaine pour atténuer l'impact du coronavirus. D'autres réunions auront lieu sur la question plus tard cette semaine. Les réunions avait principalement porté sur l'extension des allocations chômage à $840 par semaine. Le chief of staff de la Maison-Blanche, Mark Meadows, a déclaré que bien qu'un accord ne soit pas conclu, des progrès ont été accomplis.
We're still a long ways apart, and I don't want to suggest that that a deal is imminent, because it is not. But like with any deal, as you make progress, I think it's important to recognize that you're making progress and not set an unrealistic expectation that we're just a few items away, because there's still substantial differences, but we did make good progress.
La police hongkongaise a ordonné vendredi dernier l'arrestation de 6 militants pro-démocrates en exil, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni. Explication de Joris Zilberman pour RFI.
L'exil et la nationalité étrangère ne nous protégeront pas, c'est le constat amer de Samuel Chu, militant hongkongais pour la démocratie et citoyen américain. Il a appris ce vendredi être recherché pour avoir, je cite, « incité à la sécession et à la collusion avec des puissances étrangères ». « Si je suis visé », a-t-il déclaré, « n'importe quel américain, n'importe quel citoyen de n'importe quel pays qui s'exprime en faveur de Hong Kong peut l'être et le sera aussi ». C'est la première fois que les autorités hongkongaises invoquent la compétence extraterritoriale de la nouvelle loi sur la sécurité nationale pour s'en prendre à des militants hors de Hong Kong. Également recherché, Nathan Lowe, l'un des leaders des manifestations de 2019. Il a récemment fui Hong Kong pour la Grande-Bretagne, tout comme Simon Cheung. Cet ancien employé du consulat britannique à Hong Kong a obtenu l'asile à Londres après s'être plaint de torture en Chine. Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, 4 étudiants ont été arrêtés pour incitation à la sécession sur les réseaux sociaux. 12 candidats pro-démocrates ont été disqualifiés pour les législatives qui devaient avoir lieu en septembre. Après le report de ces élections dans un an, annoncé hier, l'Allemagne a suspendu son traité d'extradition avec Hong Kong, imitant ainsi le Royaume-Uni ou l'Australie, ce que Pékin a condamné comme une violation des lois internationales.
Deux mots de culture, d'abord le cinéma avec Isabelle Chenu pour RFI, qui revient sur la disparition du cinéaste Alan Parker, plus connu pour son film Midnight Express.
Inspiré de l'histoire vraie d'un jeune américain condamné à 30 ans de prison dans les geôles turques pour trafic de drogue, le film fit scandale pour sa violence et pour sa vision supposée raciste des Turcs. La bande-son du film, signée Giorgio Moroder, a marqué autant que les images. En 1980, le réalisateur britannique change de genre et de thème avec Fame, une comédie musicale sur des étudiants d'une école d'art à New York, un immense succès populaire. 2 ans plus tard, c'est un autre film musical, plus mystico-politique, Pink Floyd The Wall, dont la bande originale est un classique. We don't need no education. 1985 est l'année de Birdie, grand prix du jury au Festival de Cannes. Le film raconte la vie d'un jeune homme de retour de la guerre du Vietnam, frappé de troubles mentaux et fasciné par les oiseaux. Alan Parker réalise Mississippi Burning en 1988, peut-être son meilleur film, une enquête policière au cœur de l'Amérique sudiste et raciste des années 60. La décennie 90 fut peut-être moins flamboyante. Il tourne Evita avec la chanteuse Madonna dans le rôle de l'Argentine Eva Perón.
Et puis le musée du Louvre a rouvert depuis un mois, une réouverture partielle à cause des gestes barrières. On va écouter le bilan après un mois avec Elisabeth Le Quéré pour RFI.
Port du masque et gel hydroalcoolique obligatoire, sens de la visite imposé par de grandes flèches jaunes qui quadrillent salles et couloirs. Comme tous les lieux publics parisiens, le Louvre, depuis sa réouverture, impose des règles sanitaires strictes à ses visiteurs. Mais ceux-ci auront, en compensation, la joie de déambuler dans un musée presque vide, comme ces deux touristes brestois.
Je m'attendais à ce qu'il y ait peu de monde, ouais.
Ben, je viens exprès pour pouvoir en profiter une fois, en égoïste. Voilà.
L'escalier qui conduit à la Victoire de Samothrace est quasiment désert. Quant à la salle de la Joconde, où d'ordinaire la foule se bouscule, perche à selfie en main, elle est presque vide, à part ce jeune couple de Parisiens.
Je suis parisienne de naissance, mais ça fait très très longtemps que je n'étais pas allée au Louvre, donc j'en ai pas souvenir en tous les cas.
Et on voulait profiter qu'il n'y a pas de touristes.
C'est le moment d'en profiter pour un peu mieux apprécier les œuvres.
De fait, privé des touristes étrangers, américains, chinois, brésiliens, qui compose 75% de son public, le musée reçoit cet été une majorité de Français, dont nombre de Parisiens, trop heureux d'avoir la Joconde pour eux tout seuls.
On passe à la météo pour ce dimanche en Australie. À Perth, il fera 19 degrés. Adélaïde, 17. Melbourne, 17 également. Hobart, 14. Canberra, 15. Sydney, 19. Brisbane, 23. Cairns, 25. Darwin, 31. Et à Alice Springs, maximal de 25 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche. Melbourne devrait adopter dans quelques jours les restrictions de coronavirus les plus strictes de la pandémie à ce jour en Australie. Selon des rapports dans les médias, il y aurait plus de 650 nouveaux cas recensés ce dimanche dans le Victoria. 12 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés en Nouvelle-Galles du Sud ce dimanche. Fin du journal. Merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Le journal des sports de ce dimanche, avec d'abord le foot, la finale de la Coupe en Angleterre avec Arsenal qui a battu Chelsea 2-1 avec un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. On revient sur la victoire du Paris Saint-Germain contre Lyon au tir au but, 6-5 pour la toute dernière Coupe de la Ligue. C'était vendredi soir. On écoute la réaction de Thomas Tuchel, le sélectionneur des Parisiens.
C'était nécessaire de souffrir un peu, mais... c'est comme ça. On n'a jamais perdu la concentration, jamais perdu la fin de gagner la confiance. Et on a gagné le penalty. Ça compte. J'ai vraiment l'impression que tout le monde pense que c'est normal qu'on gagne. C'est une sensation si on ne gagne pas, mais si on gagne, voilà, vous êtes les meilleurs joueurs. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Mais c'est pas comme ça. 4 titres, c'est un grand effort de cette équipe-là, je suis très heureux.
Lyon ne disputera pas la Coupe d'Europe la saison prochaine, à moins de remporter la Ligue des Champions. On écoute Rudy Garcia, le sélectionneur lyonnais.
120 minutes et qu'on n'est pas récompensé par le trophée, c'est d'autant plus dommageable. Je pense qu'il va falloir travailler aussi psychologiquement, même si j'ai commencé à le faire après le match avec le groupe. Mais c'est important qu'on garde la tête haute, qu'on se rende compte de tout ce qu'on a fait de bien. Et que ça nous serve pour nous qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, parce que c'est maintenant l'objectif qui est le nôtre, vendredi prochain.
Au Portugal, la finale de la Coupe et le FC Porto a battu Benfica 2-1. En Italie, la 38e journée hier avec l'Atalanta battue par l'Inter Milan 2-0. La Lazio Rome battue également par Naples 3-1. Défaite de la Juve de Turin battue par l'AS Rome 3-1 également. L'AC Milan a battu Cagliari 3-0. Brescia et Sampdoria Gênes ont fait match nul 1-1. Le championnat d'Écosse a repris hier la première journée avec la victoire d'un des ténors, les Glasgow Rangers contre Aberdeen, 1-0. Les Glasgow Celtics joueront ce dimanche contre Hamilton. Et puis ce dimanche a signalé aussi les demi-finales de la Coupe de France. Guingamp qui jouera contre Lyon et Bordeaux contre le Paris Saint-Germain. Victor Osimhen, le prix Marc Villain-Fauré 2020, arrive officiellement à Naples pour 5 ans, comme nous l'expliquent Sylvie Berruet et Christophe Diremzian pour Radio France Internationale.
Attendu, l'attaquant nigérian Victor Osimhen, prix Marc Villain-Fauré 2020, officiellement rejoint Naples pour 5 ans. Le joueur de 21 ans quitte Lille, où il n'aura passé qu'une saison, mais sera regretté pour son talent. Rappelons son palmarès, 18 buts inscrits, toute compétition confondue, le club nordiste a d'ailleurs fait payer cette efficacité en le laissant partir pour plus de 80 millions d'euros, ce qui fait désormais de lui le joueur africain le plus cher du monde. Christophe Diremzian.
Lille a décidément le talent pour vendre ses joueurs africains à prix d'or. Après l'Ivoirien Nicolas Pépé, parti pour Arsenal l'été dernier pour la coquette somme de 80 millions d'euros, c'est encore son meilleur buteur qui efface de peu ce record grâce aux 10 millions de compléments à l'indemnité de transfert proprement dite de 71 millions. Victor Osimhen Osimhen voit évidemment sa réussite de la saison récompensée, il touchera à Naples environ 5 fois plus qu'au LOSC, un salaire net annuel compris entre 4 et 5 millions et demi d'euros selon ses performances. Donné pour acquis depuis un moment, le Nigérian était même déjà allé passer la visite médicale en Italie le 18 juillet, le transfert a tardé à être officialisé. Le soudain changement d'agent sportif du joueur n'a pas facilité les choses, les deux parties ont dû reprendre les négociations depuis le début pour sécuriser un transfert qui n'allait pourtant pas de soi avant l'interruption de la Ligue 1 fin avril. Osimhen n'était alors pas spécialement désireux de partir, quelques mois seulement après son arrivée de Belgique, mais la mort de son père fin mai l'a poussé à revoir son avenir. Le Napoli, moins prestigieux que Manchester United ou Arsenal, qui l'ont sérieusement courtisé, lui a semble-t-il offert davantage de garanties de jeu et de perspectives de se hisser parmi les meilleurs attaquants évoluant en Europe.
Et puis, rebondissement dans la course à la présidence de la Fédération ivoirienne de foot et de la candidature de Didier Drogba. Et hier, il a officiellement déposé sa candidature à la présidence de la FIF. Date limite pour se lancer dans la course, comme l'explique Eric Mamrut pour RFI.
Comme promis, nous avons bel et bien tous nos parrainages. Cette annonce, postée hier sur les réseaux sociaux par Eugène Diomandé, le directeur de campagne de Didier Drogba, en a surpris plus d'un. Aucun des 5 groupements d'intérêt sportif ne semblait en effet lui avoir offert le parrainage indispensable pour se porter candidat. À commencer par l'AFI, l'association des footballeurs ivoiriens, dont Drogba est pourtant l'un des vice-présidents, qui lui avait préféré Idriss Diallo. A appris que des membres dissidents de la FI avait convoqué une assemblée générale extraordinaire pour désavouer son président, Cyril Domoro, et finalement donner le parrainage à Drogba. La même situation s'était produite il y a 10 jours avec le groupement des arbitres. Un parrainage d'abord accordé à Sori Diabaté, avant d'être attribué à l'ancien numéro 11 par des dissidents via une AG. Une assemblée générale désavouée dans la foulée par la fédération ivoirienne qui devrait faire de même pour celle de la FI. Didier Drogba va donc se présenter demain matin à la commission électorale avec un ou deux parrainages qui figurent déjà dans les dossiers de candidature de Sori Diabaté et d'Idriss Diallo. Quels seront en outre ces 3 parrainages de clubs de D1, eux aussi indispensables? Là encore, seront-ils valables? Des réponses que seule la commission électorale pourra apporter avant de valider ou non la candidature de Drogba Didier.
L'Algérie a annulé toutes les compétitions de foot à cause de la pandémie de coronavirus. Safia Jalal, RFI.
La Covid-19 aura eu raison de l'attentisme de la FAF. Les infections qui dépassent les 600 chaque jour et les décès qui s'élèvent globalement à plus de 1200 ont amené les membres de l'Assemblée Générale à préconiser au bureau exécutif l'arrêt définitif des compétitions, tout panier confondu. Cela a fait les affaires du Shabab de Belouizdad qui a décroché ainsi son 7e titre de champion d'Algérie. À 8 journées de la fin, en mars dernier, quand le championnat s'était arrêté, le CRB occupait seul le fauteuil de leader avec 3 points d'avance sur un duo composé du Mouloudia d'Alger et de Sétif, ce dernier comptant néanmoins un match de plus que ses 2 rivaux. Du coup, le MC Alger disputera tout comme le CRB la Ligue des champions africaine et Sétif sera concerné par la Coupe de la CAF. La saison prochaine, la Ligue 1 sera composée de 20 clubs au lieu de 18, en raison de la non-rétrogradation des 3 derniers et de l'accession de Médéas, Kikdat, Lemsen et Rodizan.
Et puis le basket avec la NBA qui a redémarré jeudi sans foule à huis clos. On écoute la réaction de Alexandre Martin de Trash Talk. C'est un site web français d'information spécialisé dans le basketball américain.
Déjà, on va voir si c'est du vrai basket. Déjà, on va voir à quel niveau ça peut jouer. La coupure de plus de 4 mois, c'est pas évident à gérer physiquement en fait pour les athlètes. Ensuite là, avec la situation sanitaire, ils sont arrivés les uns après les autres un peu dans la bulle, si j'ose dire ainsi, créée par la NBA pour reprendre la compétition. Et finalement, la plupart, ils auront eu que 2 ou 3 semaines de véritable entraînement avant que la compétition redémarre. C'est pas beaucoup en fait. Je pense que les 2 premières semaines vont être de la montée en puissance. Et à partir de la 2e quinzaine d'août, là, on peut tout à fait voir du basket de très haut niveau comme on a l'habitude de voir en NBA.
Et puis un mot de tennis avec l'US Open a signalé que l'Australienne Ash Barty a déclaré qu'elle n'ira pas à New York à cause du Covid-19. Et puis le Grand Prix de Formule 1 de Grande-Bretagne, ce sera pour ce dimanche. Nous sommes dimanche, notre nouvelle rubrique qui s'intéresse à un homme ou une femme au cœur de l'actualité. Pour en parler, nous sommes avec Émile Matasso. À la une aujourd'hui, Xavier Dupont de Ligonnès.
Oui, Xavier Dupont de Ligonnès, cet homme qui est soupçonné d'avoir assassiné en 2011 son épouse et leurs 4 enfants. Ces corps qui ont été découverts dans le jardin de la demeure familiale à Nantes. Depuis avril 2011, personne n'a revu Xavier Dupont de Ligonnès. On ne sait pas s'il est encore en vie et si oui, où il se trouve. Mais il reste le suspect numéro 1 dans cette terrible affaire dont on reparle aujourd'hui. Alors pas tant parce qu'il y a de nouvelles révélations dans l'enquête, mais parce que le magazine Society, qui paraît en France 2 fois par mois, le magazine Society vient de sortir un numéro spécial consacré à cette affaire. Et ce numéro, tiré à 70 000 exemplaires et sorti le 23 juillet dernier, il s'est vendu en un clin d'œil. En quelques jours, tous les numéros ont été vendus, rupture de stock dans les kiosques, à tel point que la rédaction de Society va en publier ces prochains jours 30 000 numéros supplémentaires de ce premier volet, puisque le 6 août, la semaine prochaine, la deuxième partie de ce dossier spécial de Society consacré à l'affaire Dupont de Ligonnès va sortir. Le magazine a réalisé là un très très gros coup. Le dossier est remarquable avec beaucoup de détails, de témoignages inédits d'amis, de proches, de la famille qui permettent d'enrichir tout ce que l'on savait déjà sur cette affaire, mais de cerner un peu plus la personnalité des uns et des autres, des différents protagonistes, mais surtout que le magazine se soit arraché comme cela en quelques jours, eh bien, nous montre combien cette affaire passionne les Français. Alors passionne, le mot est un peu fort et morbide, hein, vu qu'on parle de l'assassinat de 5 membres d'une même famille, mais il y a toujours eu de tout temps une sorte de fascination qui ne dit pas son nom pour ces faits divers macabres, hors normes, qui défraient la chronique. À l'époque, en 2011, l'émotion avait été très forte en France, hein, et cette affaire, elle avait fait la une des journaux, des médias durant des semaines. Il y a eu ensuite des rebondissements. Il y a 6 mois, et on va y revenir tout à l'heure, hein, tous les médias ont annoncé que Xavier Dupont de Ligonnès avait été arrêté à Glasgow, en Écosse. Mais non, c'était une erreur. Et donc cette affaire, eh bien, elle n'est toujours pas résolue avec sa part de mystère, sa part de zone d'ombre.
Justement, revenons-en à ce qui s'est passé lors de ce printemps 2011 et ce que l'on sait.
La famille Dupont de Ligonnès, elle vivait dans un pavillon de Nantes, au 55 rue Robert Schumann, à Nantes, dans l'ouest de la France précisément. Le père, Xavier Dupont de Ligonnès, le suspect, il est âgé de 50 ans à l'époque des faits, une activité professionnelle assez floue, il a créé plusieurs sociétés, il se définissait comme un commercial, mais il avait des dettes importante. Son père à lui, le père de Xavier Dupont de Ligonnès, avait quitté le foyer familial quand Xavier Dupont de Ligonnès avait une dizaine d'années. Il a donc grandi du côté de Versailles avec ses sœurs et sa mère qui a fondé en 1960 un mouvement sectaire, l'Apocalypse. L'épouse de Xavier Dupont de Ligonnès, Agnès, elle aussi a grandi dans l'ouest parisien, entre Versailles et Neuilly-sur-Seine, très croyante, très pieuse, elle enseigne le catéchisme. En 2004, elle s'est confiée sur Internet, sur le forum bien connu Doctissimo, où les gens échangent, et elle s'est confiée notamment sur ses problèmes familiaux, ses problèmes de couple. Les enfants du couple de Ligonnès, au nombre de 4, Arthur, Thomas, Anne, Benoît, âgés au moment des faits en 2011, de 20 ans, 18 ans, 16 ans et 13 ans. Que peut-on dire ? Eh bien que tout a basculé entre la fin mars 2011 et début avril 2011. On va résumer les faits, bien évidemment, mais début avril, soudainement, les amis des 4 enfants n'ont plus de nouvelles d'eux. Les établissements où ils sont scolarisés, pour les jeunes, les plus jeunes, reçoivent un courrier qui précise que la famille va quitter précipitamment la France pour aller en Australie, où Xavier Dupont de Ligonnès aurait été muté. Début avril, les jours passent, les volets de la maison sont toujours fermés, les proches, le voisinage s'inquiètent, la police finit par intervenir. Le 21 avril 2011, quelques 3 semaines après les premiers doutes, les enquêteurs découvrent sous la terrasse de la maison, enterrés, les restes humains de 4 corps, les corps de l'épouse et des 4 enfants, enveloppés dans des draps, dans des sacs de jute et recouverts de chaux pour accélérer leur décomposition. Les deux chiens de la famille des Labradors sont retrouvés également abattus, enterrés. Ces chiens que des voisins ont entendus hurler à la mort durant deux nuits, deux semaines auparavant. Les quatre corps retrouvés ont des impacts de balles dans la tête, dans le thorax. L'autopsie révélera que les cinq personnes ont été endormies, droguées avant d'être abattues. Dans le même temps, l'enquête avance. Alors que Xavier Dupont de Ligonnès apparaît comme le suspect numéro un, l'enquête permet, via ses achats avec sa carte bancaire notamment, de certifier qu'il a acheté fin mars des grands sacs poubelles, des dalles plastiques, adhésifs pour le sol, mais aussi début avril du ciment, une bêche, une houe, de la chaux en grande quantité. Cette affaire hors norme, aucune trace de sang n'a été retrouvée dans la maison qui avait été vidée, nettoyée. Les enquêteurs estime que Xavier Dupont de Ligonnès aurait tué sa femme et trois de ses enfants dans la nuit du 3 au 4 avril 2011 et son dernier enfant deux jours plus tard dans la soirée du 5 avril. Ensuite, les enquêteurs ont pu retracer le parcours du meurtrier présumé sur une quinzaine de jours d'hôtel en hôtel. Il quitte Nantes, il passe par l'Aquitaine, puis le sud de la France. La dernière trace remonte au 15 avril 2011. On voit Xavier Dupont de Ligonnès retirer de l'argent dans un distributeur de billets à Roquebrune-sur-Argens, dans le Var.
Le magazine Society raconte tout cela en détail, les avancées de l'enquête, mais aussi les fausses pistes depuis 2011.
Oui, il y a eu des battues d'organiser dans les alentours de Roquebrune-sur-Argens, des descentes de police, celles dans un monastère en 2018 par exemple, où des témoins affirmaient avoir vu Xavier Dupont de Ligonnès, cet homme qui avait récupéré l'arme de son père, un 22 long griffe, quelques semaines avant la tuerie de 2011. Ce même calibre retrouvé sur le corps des victimes. Le suspect avait aussi acheté début mars 2011, un mois avant le drame, un silencieux et des cartouches de carabine dans une armurerie de Nantes. Entre le 26 mars et le 1er avril, il est allé à quatre reprises s'exercer sur un stand de tir de la Jonelière, près de Nantes. Aucune trace, nous le disions, de Xavier Dupont de Ligonnès depuis 2011. S'est-il suicidé? C'est la thèse privilégiée par la procureure en charge de l'enquête. L'enquête qui rappelle qu'il était endetté, il devait beaucoup d'argent, Xavier Dupont de Ligonnès, mais rien ne prouve aujourd'hui qu'il s'est suicidé. S'est-il exilé? Mais où? Lui qui, dans les semaines, les jours précédant le drame, aurait expliqué via des courriers à des proches ou à sa famille élargie qu'ils allaient partir, toute la famille, aux États-Unis dans le cadre d'une mission secrète couverte par les autorités américaines. Ou ce courrier, envoyé à l'école des enfants, nous le disions, pour dire qu'ils partaient, mais tous les six, en Australie. Le rebondissement le plus improbable, bien entendu, dans cette affaire, c'est celui d'octobre 2019, il y a un peu plus de six mois, quand tous les médias français, ou presque, sur la foi d'un article du Parisien, qui affirmera par la suite que l'information avait été recoupée et confirmée par cinq sources fiables et proches du dossier. Tous les médias français, donc, vont reprendre durant 24 heures l'information comme quoi Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté à l'aéroport de Glasgow, en Écosse, à l'arrivée d'un vol provenant de Paris, confondu par ses empreintes digitales. Toutes les télés ont alors basculé en édition spéciale. Le fugitif interpellé, 8 ans après les faits, rendez-vous compte. Mais au bout de plusieurs heures et d'une nuit de vraies fausses informations où on a fini par remettre le conditionnel, il s'est avéré que la personne interpellée n'était pas Xavier Dupont de Ligonnès. Seuls 5 points sur 13 des empreintes digitales étaient fiables. L'analyse ADN a confirmé l'erreur. L'énigme reste entière aujourd'hui. Certains affirment même que les 5 corps retrouvés sous la terrasse n'ont pas été identifiés comme il se doit et que rien ne prouve, même s'il est avéré qu'ils ont une ADN commune, rien ne prouverait qu'il s'agit des corps de l'épouse et des 4 enfants, les corps décomposés par la chaux qui n'était pas reconnaissable.
Et dans 36 secondes, je passe l'antenne à mon collègue Christophe Mallet pour le 66e épisode de Europa Voice en compagnie de Nathanaël Bloch.
Europa Voice numéro 66. Et comme chaque épisode, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
Alors on va parler d'Europe, bien entendu, c'est le sujet de ce podcast Europa Voice. Mais depuis un petit moment, on parle de coronavirus en Europe. Alors les choses changent presque minute par minute, j'allais dire, en tout cas jour par jour, si ce n'est semaine par semaine. Il y a beaucoup de choses qui changent. Par contre, il y a un objectif en Europe, c'est la relance. La relance économique, c'est vraiment le mot d'ordre de ce qui se passe aujourd'hui en Europe, même s'il y a le volet sanitaire, mais l'économie reste au centre de tout ce qui se passe aujourd'hui en Europe.
Oui, Christophe, et vous l'avez dit, hein, il y a le volet sanitaire d'un côté, mais en parallèle de ce volet sanitaire, il y a effectivement l'obligation pour l'Europe, en marge du plan de relance qui a été adopté, de réouvrir les frontières, alors à la fois entre pays européens, au sein de l'espace Schengen, d'unifier les règles des différents pays européens, mais également, Christophe, de relancer la machine hors espace Schengen et de finalement réouvrir l'espace européen aux voyageurs hors Europe pendant cette saison touristique. Et c'est là où les choses deviennent un peu compliquées, Christophe, puisque on le savait, hein, l'Europe avait dans un premier temps fermé une partie de ses frontières, avait fait du cas par cas, et puis là on le voit, hein, ça évolue vraiment tous les jours en raison de cette pandémie de coronavirus. L'Union européenne vraiment ajuste sa liste, alors à la fois de pays qui sont interdits, mais aussi de pays qui sont ce qu'on peut appeler exemptés, Christophe, de restrictions de voyage. Et c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte. Il y a d'abord les éléments qu'on peut appeler les conditions de réciprocité, par exemple c'est ce qui s'applique avec la Chine. L'Europe veut, alors il y a les raisons évidemment politiques derrière, on en parlera plus tard, mais l'Europe veut mettre en place avec la Chine des conditions de réciprocité pour l'arrivée de ressortissants chinois sur le territoire européen. Et puis après, vous avez au cas par cas, encore une fois Christophe, des conditions de quarantaine, de tests, etc., que chaque pays européen est en train de mettre en place et de faire évoluer.
Alors, on sait qu'il y a des pays tels que l'Algérie, par exemple, qui sont beaucoup sur la sellette. Il y a eu le débat autour de l'Algérie, savoir si l'Algérie est un pays sûr ou pas en termes de Covid. Mais d'un point de vue financier et économique, comme je disais, il y a eu des décisions qui ont été prises. On en avait parlé d'ailleurs dans l'épisode précédent d'Europa Voice. Il y a eu vraiment des décisions fortes d'un point de vue européen pour la relance économique qui est vraiment le moteur européen à l'heure actuelle.
Oui, Christophe, alors vous parlez sûrement de ce plan de 750 milliards d'euros, ce deal qui a été adopté. Alors il faut savoir, on en avait parlé, hein, dans un précédent épisode d'Europa Voice, de ce podcast, Christophe, qu'il y a une partie de ce plan de relance qui va être, j'allais dire, dirigée en priorité vers les pays qui ont le plus souffert de cette crise du Covid-19, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, mais aussi dans une moindre mesure la France. Et puis, il va y avoir aussi, en parallèle de ces aides, le budget pluriannuel, puisqu'il faut savoir que ce plan de relance va s'inscrire en parallèle du budget pluriannuel qui a été voté pour l'Union européenne. Et bien, il va y avoir des programmes européens. Alors, c'est ça qui est intéressant, pas aussi important qu'on l'imaginait. C'est notamment un petit regret, j'allais dire, d'Ursula von der Leyen et de la Commission, parce qu'il y a plusieurs de ces programmes qui seront finalement moins bien dotée, Christophe, qu'elle ne le souhaitait. Mais de manière globale, effectivement, il va y avoir des dizaines et des dizaines de milliards d'euros qui vont être alloués pour relancer l'économie de ces pays européens. Alors, le vrai débat, Christophe, c'est de savoir jusqu'à où vous mettez la jauge. C'est-à-dire, est-ce que vous maintenez, si je peux me permettre l'expression, sous respiration artificielle, l'économie parce que vous savez qu'elle va redémarrer dans un certain temps? Mais ça, vous pouvez pas le faire indéfiniment. Donc, c'est véritablement, j'allais dire, maintenant que la partie commence, parce que c'est voir comment est-ce qu'on va être capable de relancer l'investissement et la consommation dans ces pays européens pour assurer une croissance, non pas dans les prochains mois, mais une croissance à long terme, grâce en partie à ce plan de relance qui a été adopté et ce deal. Ce jour historique pour l'Europe, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron, il y a maintenant 10 jours de cela.
Et si on parle d'un point de vue sanitaire, juste pour conclure la question du coronavirus, quid de la deuxième vague à travers le monde, mais du coup, quid de la deuxième vague en Europe également, avec une remontée du nombre de cas? On évite quand même ce mot de deuxième vague, même si la Belgique l'a quand même dit à demi-mot. Hein.
C'est intéressant, Christophe, parce que il y a vraiment un débat qui est évidemment à la fois, et c'est le plus important, sanitaire, mais qui est aussi sémantique. 2015, c'est-à-dire à partir de quand est-ce que vous appelez ça une deuxième vague, seulement une remontée des cas? Ce qui est sûr, en tout cas, Christophe, c'est que pour la population, en termes, j'allais dire, de communication du politique et du décisionnaire, à partir du moment où vous imposez plus de restrictions, à partir du moment où vous contraignez vos concitoyens à porter des masques, à partir du moment où vous interdisez les réunions en grand nombre, forcément, c'est parce qu'il se passe quelque chose du côté sanitaire. Alors, pour l'instant, officiellement, la terminologie de deuxième vague n'a pas été, j'allais dire, adoptée en Europe. Elle ne figure dans aucun texte officiel. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on est plutôt sur des tendances à la hausse de la remontée des cas. Et on va voir, j'allais dire, à partir de quand la Commission et les décisionnaires politiques européens vont considérer qu'on peut parler d'une seconde vague. Autre élément, Christophe, juste sur cette question d'épidémie et de seconde vague, ce qui est intéressant, c'est que la Commission européenne est aussi en train de se positionner par rapport au traitement et à la fiabilité de certains traitements. Alors, on va pas rentrer dans la polémique, Christophe, mais pour l'instant, la Commission, enfin l'Europe en général, l'Union européenne a l'air de plutôt botter en touche les solutions préconisées par notre cocorico national Didier Raoult et de s'orienter vers un autre type de traitement. Mais c'est aussi intéressant d'un point de vue de politique et de santé publique, c'est que l'Union européenne est aussi en train de se positionner non plus seulement du point de vue de la relance économique et de la sécurité de ses ressortissants, mais aussi est en train de prendre un petit peu du poids du point de vue sanitaire et de l'organisation d'une réponse globale sanitaire. Et c'est ça véritablement, Christophe, je pense qu'il va être intéressant de regarder, de monitorer, c'est de voir comment, alors que l'Europe a peut-être mis du temps à démarrer en mars dernier au moment de la première vague, bah comment l'Europe maintenant va s'organiser pour répondre non plus sur la question politique ou la question économique, mais également sur la question sanitaire par rapport au Covid-19 et à la potentialité d'une seconde vague.
Voilà, tout à fait. C'était en tout cas le point coronavirus. On va parler d'un autre sujet qui est peut-être un peu plus grand que ce qu'on peut croire dès le départ. Mais en Pologne, les choses deviennent de plus en plus tendues. Il y a eu une élection présidentielle il y a très peu de temps. Et on sent bien que la droite radicale, enfin en tout cas, ça se radicalise pas mal en Pologne. Et quand je dis un peu plus grand, c'est qu'en fait, ça se radicalise pas mal du côté de l'Est du continent européen.
Oui, Christophe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce qui est en train de se passer en Pologne et ce qui se passe au niveau des institutions de l'Union européenne, c'est qu'il se dessine un mouvement où finalement, l'Union européenne est en train de prendre, j'allais dire, la mesure politique des choses et veut lier d'une certaine façon le respect à la fois des valeurs européennes, hein, l'égalité homme-femme, les droits de la famille, le droit de et le respect des populations LGBTI. Elle veut lier ces valeurs-là au financement qu'elle pourrait apporter à certains des pays européens. Et c'est exactement ça qui s'est passé en Pologne, hein, c'est que la Commission a tout simplement dit qu'elle allait couper des fonds européens à des villes qui se disaient, et là je le cite évidemment, Christophe, zone sans idéologie LGBT. Et c'est intéressant parce que finalement, ce positionnement de l'Union européenne, il n'est pas nouveau, Christophe, parce que il date en fait d'il y a quelques mois de cela, où l'Europe avait déjà dit qu'elle conditionnerait certaines de ses aides au respect de l'état de droit en Hongrie, et notamment en réaction à certaines décisions et à certains positionnements de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Donc, on est en train de voir se dessiner aussi en Europe, si vous voulez, Christophe, l'application d'une jurisprudence de conditionnement des financements et des politiques européennes au respect de l'état de droit et au respect, j'allais dire, des valeurs européennes dans certains pays.
Et vous avez parlé beaucoup de la Hongrie. C'est vrai que la Hongrie, c'est un bon exemple par rapport à ça, parce que Orban a quand même a été plus ou moins franchi une ligne rouge de temps en temps quand même. Hein.
Oui, Christophe, exactement. Pour le rappeler à nos auditeurs, hein, Viktor Orban avait pris des positions qui étaient, j'allais dire, extrême, ou en tout cas qui ne correspondait pas aux valeurs de l'Union européenne, et l'Europe s'était déjà positionnée, avait dit que certaines vivres seraient coupées s'il n'y a pas ce respect de l'état de droit. C'est toujours, on parle toujours par rapport aux minorités, minorités sexuelles, minorités religieuses, et là ce qu'on voit aussi, Christophe, ce qui est intéressant, c'est que c'est plus simplement de l'anecdotique, hein. C'est qu'il y a plusieurs, notamment sur ce cas polonais, il y a plusieurs commissaires européens, ce qui montre quand même l'implication des institutions. Il y a le, il y a à la fois évidemment la commissaire européenne en charge du portefeuille de, à l'égalité, Elena Dali, qui avait dit que six demandes de jumelage de villes polonaises qui ont adopté ces résolutions sur des zones franches, je cite LGBTI, ou sur des zones où les droits de la famille ont été rejetés, ben que ces financements allaient être coupés. Mais vous avez aussi le commissaire européen Christophe en charge du portefeuille de la justice, Didier Reynders, qui a tout simplement explicité que, et je le cite, la discrimination de quelque nature que ce soit ne peut jamais être tolérée dans l'Union européenne. Les valeurs de celles-ci doivent être respectées dans tous les programmes financés par l'Union européenne. Ça veut dire quoi aussi, Christophe? Ça veut dire que finalement, dans ce jeu de la carotte et du bâton, ben la carotte qui semble marcher en tout cas, et ben c'est la carotte financière, et certainement elle marchera d'autant plus qu'il y a beaucoup d'argent avec ce plan de relance qui va être injecté au sein des différents pays de l'Union européenne. Et donc intéressant de voir si ces contraintes ou ces menaces d'aide financière, elles vont avoir un impact sur les politiques menées au sein de ces pays. Alors c'est notamment des pays de l'Est, hein, on a parlé de la Pologne et on l'a dit aussi la Hongrie il y a quelques mois de cela. Donc véritablement presque une jurisprudence, j'allais dire, conditionnement des financements européens aux valeurs européennes qui est en train de se mettre en place petit à petit au sein de l'Union européenne.
Affaire à suivre.
Affaire à suivre, Christophe.
Merci, Nathanaël.
Merci, Christophe.
Nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous mardi à partir de 13h sur les ondes de SBS French. Entre-temps, n'oubliez pas de télécharger gratuitement nos podcasts sur sbs.com.au/french. Très belle fin d'après-midi et à très bientôt. Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.